Radio Vatine, grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Stéphane Kitutu Oléontois, ancien président délégué général de l'Office Zaïrois de Radio Diffusion et de Télévision ORT et actuellement directeur général du Canal Congo Télévision. Monsieur Stéphane Kitutu, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir pour moi de toute façon.
Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours professionnel. Votre nom figure parmi les grands noms dans les médias congolais. Vous avez été une vedette du journal télévisé vers les années 60.
Plutôt, oui, vers la fin de la décennie 60, puisque la télévision a été inaugurée chez nous, disons de façon officielle, en 67.
Avant d'aborder cette période de gloire, nous allons commencer par une petite biographie. De vous. Vous êtes né un certain 13 octobre 1943 à Kinshasa.
Oui.
Donc vous êtes, comment dire, Moalakine, quoi.
Je suis Moana Léopoldville.
Léopoldville, originaire de Kinshasa.
Je suis né à Kinshasa, mais mes parents sont originaires de Bandung.
Et donc vous connaissez très bien les réalités de Kinshasa.
Je pense à là, toute modestie bien gardée, bien sûr.
Vous avez grandi à Kinshasa.
Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études primaires et secondaires ici, je suis allé faire mes études universitaires en Belgique.
Si on essayait de faire une petite comparaison de Kinshasa aujourd'hui, et à l'époque où vous grandissiez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, vous savez, comparaison n'est pas raison. Je suis né à une époque, comme on dit, coloniale. Nous avions connu des réalités différentes. Quand nous étions jeunes, enfants, je me rappelle que dans mon quartier, qui est le quartier Kinshasa, quartier Rué, dans la commune de Kinshasa.
C'est l'actuelle commune de Kinshasa?
L'actuelle commune de Kinshasa, c'était quartier Rué, actuellement c'est commune de Kinshasa, quartier Mbaka. Nous étions à proximité de ce qu'on appelait le camp de police, le camp de la police de Lingwala. Nous devions dormir au plus tard à 21h, 22h. Il y avait un clairon qui sonnait le couvre-feu.
Le couvre-feu, c'était pour les jeunes gens, pour les enfants?
Non, le couvre-feu, c'était pour
tout
les
monde.
Indigènes.
Ah, les indigènes,
les Congolais.
Okay.
Donc, bref, il y avait du bon dans l'ancien Kinshasa, dans l'ancienne Léopoldville, qui n'est pas à comparer avec ce que nous avons maintenant, parce que bien sûr, l'ère post-coloniale est caractérisée par la liberté, mais l'époque avant l'indépendance est quand même caractérisée par l'organisation, la rigueur dans beaucoup de choses.
Et c'est ça qui manque aujourd'hui?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous manquons d'organisation, nous manquons de la rigueur.
Alors, dans quelles conditions avez-vous grandi?
Bon, moi, je suis le fils d'un ouvrier, j'ai habité chez mes parents, on n'a jamais été locataire. Très tôt, mon père avait acheté notre parcelle, il a bâti sa maison de ses propres mains. J'ai donc toujours habité chez mes parents. Bien sûr que c'était pas le paradis, c'était pas non plus l'enfer. Voyez-vous? Bon, on mangeait à sa faim. On n'avait pas toujours ce qu'on en voulait. Je me rappelle qu'à chaque bonne année, mon père buvait du vin sous l'oiseau et le cachait sous la table parce que c'était interdit. Bref, le pondou, le madessou, tout ce qu'un jeune quinois de l'époque pouvait désirer, on l'avait.
Le vin était interdit aux indigènes?
Oui, le vin était interdit aux indigènes jusqu'à quelques années avant l'indépendance.
Ils prenaient quelle boisson?
La bière.
La bière locale?
La bière locale, c'était la polar à l'époque, hein, comme on disait, la polar. Et bien sûr, la bonne vieille Primus qui était là. Dans certaines régions, dans certaines provinces, il y avait d'autres bières, mais sinon, à Kinshasa, c'était principalement la polar et la Primus. La colonie n'était pas le paradis pour les Congolais. Il y avait des exigences, il y avait des traitements dégradants. Mais dans certains aspects, moi par exemple, je me rappelle que de première année primaire jusqu'à, je crois, troisième ou quatrième année primaire, chaque année, périodiquement, nous étions dépistés pour des maladies telles que la tuberculose, la variole. Et je dis même, c'était un peu gênant pour nous, les jeunes gens de l'école primaire, même pour les maladies vénériennes. Voyez-vous, je n'ai pas de prétention, mais je pense que si je suis aujourd'hui un bon gaillard bien portant, c'est peut-être à cause de tous ces dépistages précoces. Et c'était important.
C'était obligatoire dans toutes les écoles.
C'était obligatoire. Et je pense que c'était un gros avantage pour nous.
Mais c'est qui te fait marier?
Oui, je suis marié.
Interdit comme des enfants.
Plusieurs enfants. Je sais que, si je vous donnais le chiffre, ça va vous effrayer.
Enfin, c'est que vous êtes marié, père, de plusieurs enfants. Parlant de vos études, vous êtes gradué en sciences économiques, de l'IS.
Je suis gradué en sciences économiques. Ouais. commerciales et consulaires de l'Institut supérieur de commerce de l'État
en Belgique,
qui a été une des facultés qui ont aidé à créer aujourd'hui ce qu'on appelle l'Université d'Anvers.
Pourquoi vous êtes allé continuer vos études supérieures en Belgique?
Non, parce que, bon, vous voyez, moi je suis un ancien de Saint-Raphaël. Quand j'ai terminé le collège de Saint-Raphaël, le père Gaston Bougard était en train de chercher à faire en sorte qu'on crée ici une grande école de commerce. Et il a créé cette école un peu trop tard. Moi, je suis parti en Belgique déjà fin des années 61. Il a créé l'école supérieure de commerce, qui est l'ancêtre de l'Institut supérieur de commerce. Et puis, j'ai bénéficié d'une bourse d'études du gouvernement belge. C'était surtout ça la raison.
Après vos études, vous êtes revenu au pays?
Je suis revenu pour quelques temps, et puis je suis reparti pour la France. Je suis revenu au Congo fin, je sais pas, 63, je crois, je sais plus. Et puis, je suis allé en France début 65. Donc, je suis resté dans notre pays quand même pendant quelques temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes pour parler un peu de ce qui s'est passé entre 61 et 65, 64 ici chez nous, de façon...
Parce qu'on était en dehors du pays.
En dehors du pays, mais j'en parle souvent avec un mauvais œil. Quand je dis mauvais œil, pourquoi? À travers l'actualité que nous vivions en Europe, en Belgique spécialement. Je me rappelle une phrase d'un journaliste au Belge, parce qu'en ce moment-là, 61-62, c'était la sécession, c'était des troubles, et il ouvrait souvent son journal avec cette phrase, « Congo, rien ». Alors il allait à autre chose. Quand il disait « Congo, rien », ça veut dire qu'il n'y a pas eu des troubles, il n'y a pas eu des morts. Pour eux, l'actualité au Congo, c'était ça.
Il fallait qu'il y ait des troubles, des morts, voilà, pour qu'on parle du Congo.
Ça allait bien, il n'y avait rien. Cette mentalité, j'ai l'impression que ça prévaut aujourd'hui encore. On nous parle de beaucoup de nos pays africains qui ça va très mal. Et là, en 61, c'était le cas. Nous étions en Belgique, et j'ai oublié le nom de ce journaliste belge qui ouvrait son journal, parce que le Congo était l'actualité. En ce moment-là, les échanges belgo-congolais étaient encore très intenses. Et c'était un sujet de préoccupation de part et d'autre. Alors, s'il n'y avait pas de tuerie, Congo...
Rien. Alors, vous commencez votre carrière professionnelle à l'Institut National de Sécurité Sociale.
Exactement. Quand je suis revenu de Belgique, vu ma formation, un gradué en sciences économiques et commerciales connaît beaucoup de comptabilité. Je fais beaucoup de comptabilité. On fait beaucoup de comptabilité, on fait les sciences administratives aussi. Alors, je suis allé à l'Institut, je fais un concours. J'étais recruté par l'Organisation International du Travail. Le BIT avait un représentant ici, M. Rossetti, et j'ai commencé à travailler là-bas, et jusqu'en janvier 65, je pense. Donc j'ai commencé ma carrière comme comptable à l'Institut National de Sécurité Sociale.
Voilà, vous avez fait des
études. Sur le boulevard.
Vous avez fait des études économiques, vous avez travaillé à l'INSS, mais comment vous êtes retrouvé dans le journalisme? Ça compte un peu la
petite histoire. Souvent, je le dis à mes jeunes enfants et à mes jeunes amis, bon, les choix que nous opérons dans la vie, c'est parfois à notre corps dépendant, voyez-vous. J'ai fait des études économiques, j'ai fait des études commerciales, bon, avec un aspect des sciences consulaires. La plupart de mes amis avec qui j'étudie en Belgique se retrouvent aux affaires étrangères. Bon, moi, j'ai considéré que ce type de carrière-là, vous savez, l'INSS, on nous payait très bien. J'avais déjà 21 ans, je crois. Oui, j'avais 21 ans, je touchais 21 000 francs. Congolais, c'était presque 21 000 francs belges.
Vous étiez encore célibataire ou vous étiez déjà
marié? Célibataire, j'habitais chez mes parents. Mais c'est le genre de travail qui était plutôt pour moi, disons, inintéressant. Vous savez, la comptabilité, ça ne change pas beaucoup. Hein. Additionner les chiffres et tout ça, c'est la même chose. La longue, bon, finalement.
J'ai devenu une monotonie, le même travail, ça vous a fatigué.
Alors, mon tempérament ne me plaisait pas beaucoup. Je n'étais pas conforme à cela. Alors, quand les Français, en décembre 64, sont venus pour tenter d'installer la coopération culturelle avec la République du Congo en ce moment-là. Alors, ils ont organisé un concours de recrutement. Et j'ai entendu ce communiqué, je suis allé, j'ai participé au concours. Je me rappelle que nous étions 250 candidats. Et on nous avait retenus à 5. Nous sommes partis en France. Et c'est en France qu'on a fait l'admission à l'office de coopération radiophonique qui avait des studios dans une banlieue parisienne qui s'appelait Maison Lafitte. Et là, nous étions retenus à 4. Un de nos collègues a été recalé, il est revenu, Et voilà tout le changement de ma carrière est parti de là. J'ai fait 18 mois de formation. Les gens qui viennent faire les comparaisons, ça correspondait à 2 années académiques.
Quand vous êtes revenu, la télévision existait déjà au Congo?
Je suis revenu en août, je crois, 66. La télévision était en installation, mais la radio existait. En fait, je suis de formation radio. Je pense que c'est une grande école, la télévision. Ça, c'est une autre paire de manches. Je pense que la radiodiffusion nationale nous a très bien préparé pour la télé.
Mais la radio, vous êtes passé à la télévision.
Quand on a inauguré la télévision, en novembre 67, eh bien, on m'a transféré à la télévision.
C'était quoi votre sentiment la première fois lorsque vous avez présenté le journal télévisé?
J'ai gardé un très mauvais souvenir du premier journal télévisé, parce que vraiment, comme on dit en langage de notre profession, c'était un bide. Ce qui s'est passé, nous avions une coopération avec une équipe de télévision belge qui s'appelait Belgavox. Et Belgavox a créé son correspondant ici qui était Congovox. Et Congovox avait ramené au Congo des techniciens qui travaillaient en Belgique avec des équipements qu'ils avaient là-bas. Et ils sont venus ici avec la même technique et tout et tout. Alors que nous, quand on a inauguré la télévision ici, on avait des équipements français. Alors, la première édition du journal télévisé fut un échec. Pourquoi? Parce que notre monteur, M. Bourgois, avait monté le film comme si c'était pour être diffusé à la RTBF. Et c'était le grand événement, l'anniversaire du régime, du nouveau régime, comme on disait à l'époque. Et on voyait le président de la République, le général Mobutu, saluer à gauche. Toutes les images étaient à l'envers. Parce que simplement, M. Bourgois avait monté la bande comme si ça devait être diffusé sur les équipements sur lesquels il avait l'habitude de travailler.
Et vous avez eu sûrement des coups de fil après le journal.
Évidemment. Conseil de rédaction, tout de suite, je me rappelle, mon vieux, le professeur Malembe, qui était rédacteur en chef, nous a convoqués sur assistance du ministre. Il fallait tout de suite corriger et tout et tout. Alors, à ce moment-là, on avait deux éditions. On avait l'édition de 20h et l'édition de 23h à la fin de l'antenne. Bon, à la fin de l'antenne, on a compris ce qui s'était passé. Et puis, non seulement il y avait cette faute-là, du point de vue, disons, montage, c'est aussi un problème d'éclairage. Les conseillers français que nous avions sur le plateau avaient réglé la lumière pour une peau blanche, disons. Hein? Vous savez, il y a un certain nombre de kilos de lumière qu'il faut mettre sur une image pour l'éclairer. Ça dépend de la couleur. Alors, pour ce qui est de la peau blanche, la lumière est un peu moins forte que pour nous. Elle est noire. Pourquoi? Parce que nous sommes absorbants, alors que le blanc, en général, est reflétant. Alors, ce faisant, pour nous, une peau noire, on était sous-exposés. Donc, vous voyez le professeur Malembe qui avait une longue barbe comme ça, et on voyait que une mâche noire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, après, on s'est mis tous ensemble, on a calculé, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, tout de suite, on a tiré les conclusions, et depuis, on a amélioré. Je suis fier de la première télévision qu'on voulait, ce que nous ayons pu faire. Nous étions motivés, nous étions jeunes, nous aimions notre travail. Et
quand vous dites que vous étiez motivé, c'est-à-dire que vous étiez bien payé, vous aviez un bon matériel?
Un fonctionnaire n'est jamais très bien payé nulle part dans le monde. Mais l'important n'est pas celui-là. L'important, c'est de mettre ce qu'on fait.
Le travail se déroulait dans de bonnes conditions?
On avait un studio qui était convenable. On avait de bons techniciens qui nous ont encadrés, des Français qui sont venus de France, qui nous ont pilotés pendant, je sais pas, un an, deux ans.
Ça vous faisait quoi lorsqu'on parlait de vous? Parce que vous étiez quand même une star de la télévision à cette époque.
Oui, évidemment, ça nous gênait beaucoup, dans ce sens que nous sommes de conditions modestes. Ce succès-là, nous ne le recherchions pas particulièrement. Ça nous mettait parfois un peu dans l'embarras. Quand vous entriez dans certains milieux, que vous étiez tout de suite reconnu, quand certaines écoles vous invitaient pour vous présenter aux jeunes gens, bon, je pense qu'à notre corps défendant, c'était certainement une bonne chose, mais ça ne nous a pas monté à la tête, hein. Non. Aujourd'hui, je suis content, je suis heureux, parce que quand je rencontre certains jeunes gens dans notre profession, ils me disent « Ah, papa, c'est un peu par votre route que j'aimerais bien aussi faire cette profession, et voilà. » Ça, c'est ça, c'est qui
m'est fait plaisir. Plaisir, hein.
Ça fait beaucoup de plaisir.
Les rédacteurs, vous êtes très vite passé rédacteur en chef.
Je suis parti de la radio avec le titre de rédacteur, hein, comme tous les journalistes de la rédaction. Et quand il a fallu créer la télévision, il fallait aussi mettre en place toute la structure, disons, de direction. on avait un rédacteur en chef, il lui fallait des secrétaires de rédaction, il fallait des chefs de rubrique, il fallait des reporters et tout et tout. Et quand on a structuré la télévision, avec la petite expérience que nous venons d'avoir à la radio, c'était tout de suite devenu comme secrétaire de rédaction. Je secondais un peu le professeur Malembe, lui qui était à ce moment-là
rédacteur en chef.
Ouais. Jusqu'à ce qu'il ait eu des problèmes
avec le régime.
Avec le régime, oui. Et...
Vous l'avez remplacé donc.
Mais je l'ai remplacé par succession administrative normale. Je suis secrétaire de rédaction, mon secrétaire parti, et immédiatement on m'a mis à sa place.
Après la rédaction en chef, vous êtes passé administrateur.
Ça, c'est beaucoup plus tard.
Plus tard.
C'était très compliqué à l'époque. On était de fonctionnaires. Je ne sais pas si c'était compliqué, c'était organisé à l'époque. On était cotés. Chaque année, il y avait une fiche de cotation de ce responsable. Régularité, bon, assez bon. Assiduité, bon. Sens de la hiérarchie, tout ça. Bah, à la fin, on faisait le compte. Et... Bon, je n'ai jamais vu mes cotations personnellement, mais plus tard, j'ai appris que j'étais toujours très bien coté. Ceci que, d'abord, après avoir été rédacteur en chef, j'étais devenu le directeur de la télévision nationale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous étions vraiment des organisations, des directions de l'administration publique. Nous étions des fonctionnaires relevant directement du ministère.
À cette époque-là, la télévision était captée partout en RDC, au Congo, je veux dire, aux ailleurs. Hein,
les années 74, pas encore, mais un peu plus tard, à partir de la création du RENATELSAT, nous étions devenus une télévision réellement nationale, et même internationale, parce que nos émissions sur satellite.
On dit que la télévision nationale était une affaire personnelle du président, de ce président Mobutu.
Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est d'abord une petite institution nationale, relevant du budget de l'État. Ils se sont subventionnés par l'État congolais. Il est évident que, de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que le président Mobutu suivait la télévision presque, je dirais, religieusement. Voyez-vous, il s'intéressait beaucoup à ce qui se disait, à ce qui se faisait à la télévision. Est-ce pour cela qu'on a dit que c'était une affaire personnelle, je ne sais pas. Mais les gens oublient souvent que le président Mobutu était un ancien journaliste. Et en tant que tel, toute sa vie durant, d'après ce que moi je sais, il a continué à s'intéresser à cette profession. Savez-vous ? Donc, qu'il s'intéresse à la télévision et à la radio, je trouve que c'était vraiment dans l'ordre des choses. Il s'intéresse à cela non seulement parce que je pense qu'il était journaliste, mais je pense que pour une jeune nation comme la nôtre, ce nouvel instrument qui était la télévision valait la peine d'être quand même regardé de près. Je crois.
Quand il y avait un reportage qui passait dans lequel on critiquait le régime en place, il y avait des sanctions pour ces journalistes qui avaient fait ce reportage.
J'ai commencé la télévision en 1967, à sa création. J'ai quitté la télévision nationale, donc l'OZRT, en 95, avec le rang de président directeur général. Je vous le dis, et vous pouvez le vérifier, aucun journaliste de la radio nationale n'a été puni sur instruction du président de la République. Aucun. Je dis ce que je sais. Je fais partie de la haute direction de cette entreprise. Certaines décisions émanaient de nous, soit par faute professionnelle, soit pour d'autres raisons, mais je vous assure de l'initiative du chef de l'État. Révoquez-moi telle personne. Changez-moi cette personne. Je vous le dis, ceux qui ont des informations qui vous disent qu'ils ont été révoqués parce que c'est mon bout qui l'a demandé, je suis prêt à en débattre avec eux.
Et pourquoi vous avez quitté la chaîne nationale?
J'ai quitté la chaîne nationale parce que je ne suis pas au point avec mon ministre de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une grande commission de programmes. Il fallait changer les programmes. Et pour changer les programmes d'une chaîne de télévision, il y a des préalables d'ordre financier, il y a des préalables d'autre technique. Le ministre de l'époque estimait que dès que c'était terminé, puisque c'était son mandat, il voulait laisser des traces, alors que ce n'était plus son mandat, c'était le mandat du PDG. Une radio-télévision nationale, selon la structure de l'office, est dirigée par un conseil d'administration. Mais le ministre estimait que c'était à lui de donner des injonctions directes. Bon, c'était quand même un jeune homme vraiment qui sortait comme ça des bancs de l'école. J'avais mon opinion, j'avais mes avis, j'avais mes idées. Et tout cela a été considéré un peu comme une espèce de résistance. Si vous regardez l'arrêté de ma suspension, c'était pour indiscipline. Évidemment, c'était la raison publique pour indiscipline. Il y avait des dossiers de cartes.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Stéphane Kitoutou, Léontoua, ancien président délégué général de l'Office Vérois de Radio Diffusion et de Télévision ORT et actuellement directeur général du canal Congo Télévision et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes directeur général du canal Congo Télévision, mais avant que là, vous étiez directeur général à la télévision Horizon 33.
Bien sûr.
Vous avez quitté cette chaîne.
Oui.
Pourquoi? Parce que vous aviez aussi des petits problèmes avec votre hiérarchie.
Non. En fait, quoi? Je suis né à Kinshasa, comme je vous ai dit, et j'ai des relations dans tous les milieux, sans raison de tribu ni d'origine provinciale, tout ça. En mars 2006, j'ai demandé un congé, j'étais vraiment fatigué, et pendant mon congé, certains amis m'ont fait d'autres propositions. Le paysage politique congolais commençait déjà un peu à se clarifier, et je considère que ces amis-là qui sont venus me faire des propositions étaient un peu plus proches de moi. Et bon, depuis, là, je ne suis plus revenu à Horizon 33.
Vous êtes parti sans dire au revoir?
Bien sûr, j'ai téléphoné au promoteur de la chaîne. J'ai informé quelques-uns de mes collaborateurs que...
Vous avez trouvé mieux ailleurs?
Non, je n'ai pas trouvé mieux. Pour des raisons personnelles, je pense que je pourrais cesser ma collaboration à Horizon 33.
Et ces amis qui sont venus solliciter votre service, c'est Canal Congo Télévision et Canal Kin?
Non, pas Canal Kin. Canal Kin, j'étais chargé de mission là-bas. Les gens ne le savent pas. Le président Kabila m'avait nommé chargé de mission à Canal Kin à l'époque, quand ils ont nationalisé les chaînes.
Vous parlez de quel président Kabila? Le père?
Le père, oui. C'est-à-dire, j'étais quoi, le représentant? Je gérais Canal Kin au nom du gouvernement.
Oui.
Le gouvernement avait pris les biens qui appartenaient à Jean-Pierre Bemba, en raison de la situation que vous connaissez. Donc, Canal Kin et Canal Congo Télévision sont deux entreprises d'un même groupe, mais sont deux entreprises distinctes, n'est-ce pas? Et ceux qui sont venus me solliciter, c'était pour Canal Congo Télévision.
Une chaîne de l'opposition.
C'est comme ça qu'on nous considère.
C'est comme ça qu'on vous considère ou c'est ça la réalité?
Bon, la réalité est bien celle-là. Mais sur le plan personnel, j'ai toujours dit que, journalistiquement parlant, il n'y a pas de journaliste d'opposition, il n'y a pas de journaliste du pouvoir.
Mais lorsqu'on travaille dans une chaîne bien alignée, est-ce qu'on peut avoir un traitement objectif de l'information?
Comment voulez-vous qu'un véritable journaliste professionnel ne puisse pas avoir un traitement objectif de l'information? Ça veut dire quoi? Quand deux journalistes font un reportage, l'un est de l'opposition, disons-le, et l'autre est, disons, du pouvoir, schématisons comme ça les choses, ils vont à une conférence de presse. N'est-ce pas? Parce que l'un va dire que M. Tel a dit que le chien était noir et l'autre va dire que le chien était blanc. Je ne pense pas. Les faits demeureront toujours les faits. Dans cette profession, les faits sont sacrés. Vous ne pouvez pas les colorer. Vous ne pouvez pas les inventer. Vous ne pouvez pas les changer. Là où c'est normal que nous puissions avoir des divergences, c'est dans les commentaires que nous allons faire sur ces mêmes faits-là.
Et jusqu'à ce jour, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de ce métier?
Bon, par exemple, c'est un avec vous, parler de notre profession, aider les jeunes gens à apprécier où est la réalité. Vous savez, nous faisons un travail extraordinaire. On vous dit toujours qu'un homme informé en vaut 10. Non, moi j'ai dit un homme informé en vaut 100. Et c'est nous qui les informons. Donc notre plaisir, c'est celui-là, d'avoir dit des choses capables d'aider les autres à se faire une opinion. C'est pour ça qu'il nous faut une grande noblesse d'âme, une grande noblesse de savoir-être. Le journaliste qui a effectivement à dire dans la société doit être, à mon avis, c'est peut-être un peu ambitieux, une espèce d'icône respectable.
Les risques du métier, ça ne manque jamais. Non, on avait eu déjà vous.
Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes. Déjà à l'époque du président Mobutu, j'avais donné une information. J'ai dit que le président de la République, après aller faire la visite à tel endroit, va aller se reposer dans son chalet. On est venu m'arrêter. On m'a posé la question en disant là, quelle était votre intention? J'ai dit, mais je n'ai fait aucune intention. J'ai donné une information. Quand il est revenu, je venais de faire 15 jours de location. Et il est revenu, je crois, vers 10h, à 13h, sous son ordre, j'étais libéré. Donc, notre métier, nous sommes parfois victimes souvent des princes plutôt que du roi lui-même. Bon, il y a eu des petits incidents. Je suis devenu président de l'Union nationale de la presse du Congo, de la presse du Congo à un certain moment. Et parfois, quand on se fait un journaliste, on ne peut pas la mettre dessus. C'est moi le président que... On interpellait, des choses pareilles. Bien sûr, bon, tout le monde parle de l'incident qu'il y a eu en 2006 chez nous à Canal Kin. La société TV et Canal Kin, les deux d'ailleurs, nous étions complètement fascinés. Bon, jusqu'aujourd'hui, l'enquête se poursuit.
Comme vous le savez, M. Titoutou, la haute autorité des médias, la HAM, a cédé sa place au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Qu'est-ce que cet organe pourrait apporter de plus dans le monde médiatique ou dans le travail des journalistes?
La haute autorité des médias, c'était une première expérience. Elle est issue directement des accords de Sun City, n'est-ce pas? Bon, l'expérience première de l'autre autorité des médias, à mon avis, il y a à boire et à manger. Dans ce sens que, première expérience, et ce faisant, tout ne pouvait quand même pas être parfait, comme tout ne pouvait quand même pas être très bon. N'est-ce pas? Nous avons eu parfois le sentiment, hein, ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup de collègues dans la profession, que la haute autorité des médias n'était pas tellement au milieu du village. Le changement que nous espérons maintenant avec le Conseil supérieur de la communication, l'audiovisuel et la communication, c'est réellement de se placer au milieu du village, d'édicter des véritables règles et des normes professionnelles. Et qu'il en revienne à d'autres, par exemple à la profession, à nous-mêmes, à l'OMEC et aux autres institutions, de faire par exemple le travail de surveillance de l'éthique et de la déontologie. Mais si la démarcation entre le pouvoir du ministère, le pouvoir du Conseil supérieur de la communication, l'audiovisuel de la communication, les institutions d'autorégulation, de la profession, c'est-à-dire l'OMEC, en tête avec l'Union nationale de la presse du Congo, si les pouvoirs en question sont bien démarqués, sont bien établis, je pense que les espérances que nous vivons au Congo pourront devenir peut-être des exemples à copier. Donc l'espoir est que le Conseil supérieur à l'audiovisuel et à la communication puisse être vraiment l'instrument d'édition, des normes et des principes. Si ça se confirmait, je crois que ce serait utile.
Voilà, M. Titoutou, nous sommes donc vers la fin de notre entretien. Dites-nous comment vous passez vos moments de détente quand vous êtes libre, quand vous n'êtes pas à Canal Congo Télévision, plongé dans les dossiers de Canal Congo Télévision.
Bon, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais jouer au tennis. Moi, je suis un membre de Fona Tennis Club. J'ai joué là-bas pendant très longtemps. J'ai des problèmes de santé sur ma colonne vertébrale. J'ai cessé. Et j'ai longtemps hésité à trouver un autre sport de substitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis revenu à des premiers amours de ma jeunesse. J'aimais beaucoup la musique. Quand nous étions à Sainte-Anne, on nous a appris le solfège et tout. Et je n'ai jamais eu le temps de pratiquer. Aujourd'hui, à 68 ans presque, je reprends à jouer du piano. Je suis en train d'apprendre. Et ça m'occupe beaucoup. Et je crois que c'est intéressant.
Voilà, avant de clôturer notre entretien, dites-nous quel rôle doit jouer le journaliste pendant cette période électorale, M. Titoutou?
Ma chère concert, ce que je dois vous dire, c'est ça part du profond de mon cœur. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de la justice. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de service de sécurité. Un journaliste n'est pas un juge. Un journaliste, je commence par dire n'est pas. Et enfin, un journaliste n'est qu'un témoin. Son problème, c'est de constater ce qui se passe, d'en rendre compte. Et pour aider les gens peut-être à bien comprendre ce qui se passe, à les commenter, pour organiser leur appréciation. C'est là où souvent nous avons des problèmes. Donc pendant la période électorale, j'espère que, comme nous l'avons dit, le Conseil supérieur à l'audiovisuel et à la communication édictera les règles qu'il faut précisément pendant la campagne électorale pour nous mettre nous-mêmes à l'abri. Voilà donc ce que nous espérons pendant cette campagne électorale. On a eu une première expérience en 2006. Bon, vous savez, bon, nous sommes tous encore dans l'apprentissage de cette démocratie qui va durer des années et des années. Aujourd'hui encore, même dans les pays de vieille démocratie, comme on dit, il y a encore des petits problèmes, il y a des dérapages. Il y a, donc, ce n'est pas nous ici qui sommes vraiment de l'ABCD de la démocratie à vouloir les devenir parfaits. Mais du moins, si nous sommes conscients que nous devons éviter les dérapages, c'est déjà une grande chose.
Monsieur Stéphane, qui est tout au long, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Stéphane Kitutu Oléontoa, ancien directeur délégué général de l'Office Aérois de Radio Diffusion et de Télévision ORT et actuellement directeur général de Canal Congo Télévision. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique. Au micro, qui est écouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, mon site de programme sur la fréquence de la paix.